Et on va pouvoir reprendre. Donc j'espère que vous avez pris un grand café à la pause.
Parce que le RGPD, c'est fun.
Parce que là, on va parler du RGPD. Donc un truc bien juridique et bien costaud. Alors pour cela, on a deux intervenants. Alors on a Anne-Claire Bernaudin, qui est responsable informatique au sein du SCD de l'Université de Rennes 1. Et on a Fabrice Leclerc, qui est délégué à la protection des données au sein de l'université Paris 8. Donc le RGPD pour règlement général sur la protection des données, vous le savez pas, c'est un règlement européen qui est maintenant effectif depuis le 25 mai dernier, qui nous impacte normalement depuis cette date fortement dans nos établissements, dans nos bibliothèques. Du coup, ça nous avait paru assez important de faire un petit point là-dessus lors du symposium. On va faire un petit jeu de questions-réponses entre Fabrice et Anne-Claire. On va tout de suite commencer par Fabrice, qui va nous expliquer ce que c'est vraiment que le RGPD.
Merci. Alors, d'abord, effectivement, comme ça vient d'être expliqué, moi je suis juriste de formation, mais j'ai également une longue expérience de RAF dans le secteur public, donc ça me permet de... à la fois d'être juridique et peut-être un peu plus pratique. Alors concrètement, le règlement général sur la protection des données, dont le diminutif est RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018. C'est un instrument juridique contraignant de l'Union européenne, un acte à la fois du Parlement européen et du Conseil des ministres de l'Union. Il s'applique par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de texte en théorie pour être transposé en droit français et dans tous les autres pays membres de l'Union. Il s'applique de lui-même, ce qui est le contraire d'une directive qui nécessite une loi pour être transposée, et qui est donc, nécessite donc des lois et respecter les ordres juridiques des 28 États membres, et ce qui peut parfois poser problème pour la transposition. Tandis que là, je dis bien en théorie, parce qu'il y a la théorie, oui, c'est un règlement donc qui s'applique de lui-même, mais il renvoie 57 fois au droit national. Et pour ce qui est de la France, une loi, on va dire... de précision a été promulguée par le président de la République le 20 juin 2018, une loi modifiant la loi informatique et liberté de 1978. Alors, effectivement, c'est important pour nos établissements, mais ce n'est que le prolongement de quelque chose qui existe depuis très longtemps dans notre droit, c'est-à-dire le droit à la protection de la vie privée, en droit français, prévu au Code civil, par exemple, prévu par la loi informatique et liberté de 1978 et modifié de multiples fois, donc la dernière fois le 20 juin de cette année, mais aussi la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et donc en dernier lieu par ce texte. Et tout cela vient donc renforcer la protection des données à caractère personnel et imposer un certain nombre d'obligations, renforcer les droits des personnes, renforcer les droits des citoyens, alors avec des droits qui concernent plus ou moins le secteur public, puisque par exemple le droit à la portabilité des données clairement ne concerne que le secteur privé et pas le secteur public. Après, vous avez le renforcement du droit des mineurs, tout un tas de nouvelles obligations. Mais ce qui est important, c'est de noter concrètement, c'est l'article 83, à mon avis, du RGPD, c'est celui qui élève le niveau des sanctions administrative à un niveau jamais égalé, puisqu'il y a une distinction entre le secteur public et le secteur privé. Pour le secteur public, les amendes vont de 10 à 20 millions d'euros par infraction, et pour le secteur privé, de 2 à 4% du chiffre d'affaires, ce qui peut représenter pour une multinationale quelque chose de très important. Alors pour des établissements comme les nôtres, c'est évidemment un risque juridique et financier extrêmement important, ce qui nécessite évidemment la mise en œuvre de procédures internes, et j'y reviendrai quand la question se posera. Et c'est là-dessus, à mon avis, que donc cet article-là, lui, il est d'application immédiate. Donc depuis le 25 mai, tout ce que l'on fait peut avoir des conséquences financières extrêmement importantes. C'est un règlement important, des conséquences peuvent être importantes. C'est une avancée pour les droits des citoyens de l'Union, évidemment. Mais c'est aussi une problématique qui va, à mon avis, nous occuper assez longtemps dans nos établissements, parce que nous n'avons ni les moyens financiers ni les moyens humains des multinationales, c'est une évidence, et que concrètement, les risques sont potentiellement importants pour chacun de nos établissements. Donc c'est une avancée qui n'a rien de révolutionnaire sur le principe, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour la vie de tous les jours, puisque, comme vous avez peut-être vu lors de l'audition de Zuckerberg, le PDG de Facebook, devant les sénateurs américains, c'est un sénateur républicain, de manière assez surprenante, qui lui a demandé s'il comptait appliquer, pour ce qui est de ses activités en Europe, le règlement européen, et s'il comptait l'étendre aux États-Unis. Donc nous attendons la réponse, bien entendu, puisqu'elle n'a pas été claire, comme toujours. Sachant que le règlement, il s'intègre aussi dans un ordre juridique, dans une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui est extrêmement protectrice des droits des citoyens. C'est par exemple la Cour de justice qui a invalidé les transferts de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'argument que le transfert entre les deux systèmes n'était pas juridiquement protégé, que compte tenu des divers actes qui ont été votés aux États-Unis, je pense par exemple au Patriot Act sous Bush ou le Freedom Act sous Obama, je vous donne deux administrations, l'une démocrate et l'une républicaine, pour vous montrer que le problème dépasse les contingences politiques. C'est en arguant de l'existence de ces deux actes que la Cour de justice a invalidé le système qui permettait à l'Union européenne de transférer des données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc ce règlement, il s'inscrit dans une logique juridique ancienne et qui, naturellement, ça ne vous aura pas échappé, s'oppose aux pratiques quotidiennes de la plupart de nos concitoyens qui sont sur les réseaux sociaux sans la moindre idée de ce que ça peut impliquer pour la perte de leurs données et sur la protection de la vie privée. Donc ensuite, chacun fait comme il l'entend. Mais donc il y a deux aspects, il y a l'aspect personnel et l'aspect professionnel, et je ne saurais trop vous recommander dans la vie professionnelle, si vous avez le moindre doute, de travailler en étroite collaboration avec vos services juridiques, avec mes homologues des universités, avec tous les services, pour éviter, pour sécuriser au maximum et pour prendre en compte la mise en œuvre de ce règlement européen.
Merci. Alors Anne-Claire, concrètement pour les usagers d'une bibliothèque, ça change quoi ?
Alors, je vais aller dans le même sens que Fabrice Leclerc, c'est heureux. En fait, ce n'est pas vraiment une révolution pour les usagers, au sens où la norme simplifiée numéro 9 de la CNIL, qui régissait nos activités en bibliothèque depuis fort longtemps, était déjà assez protectrice et réglementait notamment tout ce qui était conservation des données, quelles données on pouvait conserver, pour combien de temps. On avait déjà une législation assez claire et carrée, qu'on n'appliquait pas forcément toujours très bien dans nos établissements, mais elle était là. Ce qui va changer, je retiendrai trois éléments. Le principal, c'est le recueil explicite du consentement de nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on récupère des données pour une justification tout à fait concrète, permettre du prêt, mais il faut qu'on recueille explicitement le consentement de nos usagers. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas, qu'on n'a jamais fait, qu'on ne sait pas forcément comment faire, mais qu'il va falloir que nous fassions. Un autre point, c'est le droit à l'oubli, mais ça va dans la même logique que celle qui était déjà la logique de la norme simplifiée numéro 9, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas des données outre mesure et au-delà et surtout de manière injustifiée. Un usager qui n'est plus usager de la bibliothèque doit disparaître des bases de données de la bibliothèque. C'est parfaitement logique, mais c'est maintenant très clairement écrit. Et un dernier point qu'on met peut-être moins en avant, le RGPD impose aussi aux administrations et aux entreprises des délais de réponse plus courts en cas de réclamation. Il va falloir qu'on s'arme aussi pour répondre à d'éventuelles demandes de nos usagers qui vont dire « voilà, je veux savoir quelles données vous conservez sur moi, pourquoi, je veux que vous supprimiez ceci ou cela ». Voilà.
Merci. Alors Fabrice, dans un établissement comme Paris 8, comment se fait la mise en œuvre du RGPD ?
Vaste sujet. Alors déjà, il faut que je vous dise que le délégué à la protection des données, c'est le terme qui est utilisé. Alors délégué à la protection des données ou Data Protection Officer, selon le terme anglais, c'est le terme qui est utilisé dans le règlement européen. Avant, et moi je l'ai été depuis 2015, on nous appelait les correspondants informatiques et liberté. Et d'ailleurs, le réseau professionnel s'appelle toujours le réseau subsile, puisqu'on n'a pas trouvé encore de terme convenable pour constituer un nouveau réseau. Le règlement européen prévoit que, dans le cas du secteur public, la désignation d'un délégué à la protection des données est obligatoire. Ce n'est pas le cas dans le secteur privé. Donc, La première chose à faire pour le secteur public, c'est de désigner un délégué à la protection des données. Moi, je l'ai été pressenti dès le 31 janvier de cette année et officiellement désigné par au mois de mars et pour une entrée effective en fonction à partir du 25 mai en même temps que le règlement européen, puisque les délégués à la protection des données ont commencé à fonctionner en même temps que le règlement européen. Donc la première chose à faire dans un établissement du secteur public au sens large, c'est la désignation d'un délégué à la protection des données. Ensuite, j'ai mis en place un comité de pilotage de mise en place du RGPD. Donc ce comité, alors vu les circonstances, je n'ai pu le réunir que deux fois, mais je fais en fonction de ce qui se passe et de ce que je peux faire. Donc ce comité de pilotage comprend, outre ma modeste personne, l'un des membres de la direction, une personne par service qui paraît intéressant, et le service juridique en particulier. Et nous évaluons ce que nous pouvons faire dans un délai assez bref. Il s'est tout de suite posé, dès le début de l'année, un gros problème sur la mise en conformité des conventions avec le RGPD, en particulier, toujours en référence à cet article 83, sur les clauses contractuelles types, c'est-à-dire les clauses de transfert de données à caractère personnel entre nos établissements, par exemple, et un établissement ou une institution d'un pays considéré comme inadéquate au sens de l'Union européenne et de la CNIL, c'est-à-dire un pays qui est considéré comme ne donnant pas des garanties pour la protection des données à caractère personnel. Donc, à ce stade-là, nous avons fait un gros travail de formation, d'abord du personnel. J'ai organisé deux séances de formation sur la protection des données et la mise en place du RGPD, et pas plus tard que ce matin, nous avons assuré avec le service juridique, l'un des directeurs généraux adjoints et la responsable du service convention, une formation sur les mentions juridiques obligatoires dans les conventions. C'est-à-dire que c'est un gros travail extrêmement chronophage, puisqu'il faut repartir du B.A.B.A. Que doit contenir une convention? Quelles sont les mentions obligatoires? Quels sont les risques? Quelles sont les clauses que l'on doit mentionner? Alors, c'est extrêmement... si vous avez dans des établissements, je vous recommande de faire ce travail, parce que c'est là, à mon avis, que c'est le plus facile pour un juriste, c'est sûr, mais c'est là que les risques juridiques sont le plus importants, parce qu'en l'absence de clauses contractuelles type dans des conventions cadres avec des établissements d'un pays non adéquat, c'est là que l'on risque le montant d'infraction le plus important, 20 millions d'euros, qui théoriquement n'est pas par contrat, mais par infraction. Donc c'est quand même lourd. Donc là, c'est le premier aspect qui nous occupe depuis à peu près 6 mois. J'ai fait signer un courrier à la présidente et envoyé à l'intégralité du personnel, quelle que soit sa catégorie, pour attirer l'attention, un, sur l'entrée du règlement, du règlement général, et deux, sur les mesures de précaution à prendre. Nous allons constituer des groupes de travail par spécificité, par exemple sur les sous-traitants, parce que là aussi c'est une problématique extrêmement, extrêmement préjudiciable potentiellement pour les établissements. Et aussi mettre en œuvre des groupes de travail pour assurer la sécurité informatique de l'établissement pour aller plus loin que ce qu'on peut faire actuellement. Donc tout un travail de sensibilisation, de formation, qui est extrêmement difficile. Je reviendrai à cela pour ma troisième intervention. Voilà.
Merci. Anne-Claire, la même question, c'est-à-dire concrètement comment ça se passe, mais cette fois-ci à l'échelle d'un SCD.
Alors là, je rebondis encore une fois, on n'a pas préparé, hein, mais on est très raccord. Sur ce que vient de dire Fabrice, la première des choses à faire pour nous au sein des bibliothèques, c'est de prendre contact avec notre DPD, parce que c'est lui qui va piloter la mise en œuvre du RGPD, c'est lui qui a les bonnes informations, et c'est lui qui va nous dire quoi faire, enfin nous aider à savoir quoi faire, et nous guider. Et s'il n'y a pas de DPD, il faut crier très très fort, parce que ça ne va pas être possible. Je voudrais revenir sur un point.
Juste pour vous préciser que dans le secteur public, l'absence d'un délégué à la protection des données vous coûtera 10 millions d'euros. Donc il y a tout intérêt à en nommer un pour faire quelques économies.
Donc j'ai la chance d'avoir un DPD, qui en plus est fort sympathique. Je voulais insister sur un point, c'est que dans une bibliothèque, les données personnelles, ça ne concerne pas seulement le SIGB, Ça va concerner aussi plein de logs divers et variés, puisqu'on met à disposition de nos utilisateurs des tas d'outils informatiques. Ça peut être des logs d'accès Internet, ça peut être des logs sur des données d'impression, ça peut être des logs sur l'accès aux ressources électroniques. Donc il faut penser plus large que le SIGB. C'était une petite parenthèse, mais qui me semble nécessaire. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est lister et documenter tous les traitements que l'on fait. Donc ça permet de, c'est ce qui va nous permettre de respecter le principe dit d'accountability. J'ai un peu de mal à le dire en français. En gros, c'est vraiment documenter tout ce qu'on fait. Donc quelles données on conserve, sur qui, à quel endroit elles sont conservées, combien de temps on les conserve, pourquoi faire, qui les consulte, est-ce qu'elles sortent de l'Union européenne ? Ça me concerne assez peu en bibliothèque, mais ça peut arriver. Quand et comment on les supprime ? Est-ce qu'elles concernent des mineurs ? Alors en BU, ça nous concerne assez peu, mais ça peut concerner des bibliothèques municipales. Et quelles mesures de sécurité on applique sur ces données-là ? Deuxième point, c'est limiter au maximum la collecte et la durée de conservation de toutes données à caractère personnel. Mais en même temps, il faut penser à ces futures statistiques. En bibliothèque, alors je parle des BU principalement puisque je travaille en BU, on est parfois un peu soumis à une injonction paradoxale entre d'un côté le ministère de l'enseignement supérieur qui nous réclame plein de statistiques les plus détaillées possibles et de l'autre côté la réglementation qui nous dit « non, il ne faut pas conserver les données même si tu en as besoin pour tes statistiques ». Donc il faut trouver un moyen de répondre à cette injonction paradoxale. Troisième point, informer les usagers et recueillir leur consentement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos pratiques et qui doit rentrer dans nos pratiques. Savoir répondre aux demandes des usagers concernant leurs données personnelles. Ce que je disais tout à l'heure, dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est des demandes qu'on a parfois via la BES, surtout concernant les thèses. Des doctorants qui viennent nous dire, plus souvent c'est des jurys de thèse qui viennent nous dire « mais dans le SUDOC, il y a ma date de naissance, je ne veux pas du tout qu'elle y soit ». Certes, nous on doit la conserver, mais on peut la cacher. Un point important, alors c'est surtout pour tous les nouveaux projets, il faut maintenant intégrer le RGPD dans tous nos cahiers des charges. On doit penser RGPD, c'est ce que le règlement appelle le Privacy by Design, c'est dès la conception, on doit penser protection des données. C'est ce que, alors nous, modestement, à Rennes, on a essayé de commencer à faire, mais on n'était pas encore très au point, mais ça doit vraiment devenir un réflexe pour chacun d'entre nous. Fabrice le disait, on doit aussi se préoccuper du respect des obligations par nos sous-traitants. C'est quelque chose qui n'existait pas dans notre monde avant le RGPD. Nos sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que nous en matière de respect de la vie privée de nos utilisateurs. Et généralement, ils ont accès à nos données, puisqu'ils ont une copie de nos bases de données pour nous aider à travailler. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, je mettrai à disposition, j'ai fait une petite carte heuristique qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui résume tout ce que je viens de dire là, qui permet de servir de pense-bête et qui renvoie aussi vers différentes pages du site de la CNIL, notamment, où vous trouverez des infos qui pourront vous aider. On a une question tout de suite. Alors, on ne fait pas encore. C'est le million. J'allais y revenir. Je peux y revenir en conclusion, si ça ne vous embête pas. Ça fait partie des choses que je voudrais dire pour finir.
Alors, du coup, Fabrice, quels sont les freins et obstacles à la mise en œuvre du RGPD dans une université ?
Je vous dirais que c'est les mêmes obstacles que pour le reste. J'entends régulièrement la phrase suivante, on a toujours fait comme ça. Pourquoi faut-il appliquer la loi ? Mais comment ça, le code civil existe toujours, mais il n'a pas été abrogé ? Non. Oui, bien sûr, on a toujours fait comme ça. Mais justement, maintenant, on ne peut plus se permettre de faire comme ça. Alors, j'entends, mais de toute façon, ça ne tombera jamais sur une université. Ben, espérons, et puis ne pas être la première, parce que celui qui va s'appeler Doctrine Paris 8, par exemple... Bonjour la réputation. Pour celui qui va se prendre l'amende. Alors, certes, on a attendu quand même un certain temps, jusqu'au 12 avril, pour qu'enfin la CNIL nous dise verbalement, parce qu'ils ne s'engagent jamais par écrit, rarement, que 10 ou 20 millions d'euros, ça pouvait se moduler en fonction de la bonne foi. Effectivement, c'est un concept juridique, la bonne foi aussi, mais il faut la prouver, la bonne foi. Donc les premières réticences, si vous voulez, les premières difficultés, c'est d'abord il faut former le personnel et expliquer encore. Et Je peux vous lire une anecdote de la journée, c'est qu'effectivement ce matin, donc, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait le qualiticien, donc nous avons été 5 à présenter une formation pour la sécurisation des conventions. Et tout à l'heure, à 1h30, en arrivant à une réunion, l'un des participants m'a dit « on n'a rien compris ». Donc là, un poids m'est tombé sur les épaules et je me suis dit « qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne tout de suite, on recommence ou... on va recommencer, on va expliquer encore. Il faut convaincre. En fait, la plus grande difficulté pour nous, c'est d'essayer de convaincre les collègues que tout ceci, ils peuvent en tirer aussi une expérience pour leur vie privée et que ça rentre dans la qualité, dans un processus de qualité que nous essayons de mettre en place à Paris 8. Oui, je sais, ça paraît bizarre vu les événements, mais nous essayons de mettre en place un processus de qualité. Et ça rentre aussi pour une université, pour l'extérieur, aussi pour la valorisation de l'université, si on prend en compte ce genre de choses. Alors, c'est compliqué, c'est à mon avis la plus grande source d'immobilisme, c'est qu'il faut convaincre les collègues d'évoluer dans leurs procédures, d'accepter le changement. Et ça, RGPD ou pas, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est déjà un premier problème. Donc, j'ai dit à mes collègues tout à l'heure, eh ben, ils n'ont rien compris, donc je crois qu'il va falloir qu'on recommence. S'ils n'ont rien compris, c'est certainement qu'on a mal expliqué. Hein. Donc il va falloir qu'on reparte à l'assaut et réexpliquer encore jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir un résultat. Paradoxalement, alors puisqu'on est entre nous, hein, il y a aussi un autre problème, c'est que la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, elle est composée d'individus aussi. Hein. Donc nous avons un accès privilégié au service dit des correspondants. Le problème, c'est que vous avez un numéro de téléphone dédié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir directement une personne. Et donc, au téléphone, quand on vous répond, vous savez tout de suite si la journée va être bonne ou pas. Parce que c'est comme partout, selon la personne sur laquelle vous allez tomber, la réponse ne va pas être la même déjà. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Et en plus, vous avez, comme dans les séries américaines, le bon policier et le mauvais policier. Donc si vous tombez sur le mauvais, c'est réglé, l'affaire est foutue. Sinon, si c'est le bon, ça peut encore s'arranger. Et vous avez des délais de réponse extrêmement longs. Et pour vous donner un exemple, pour le SCD de Paris 8, nous avons, à la demande de la CNIL, j'insiste, hein, parce que je n'aurais pas eu l'idée tout seul, qui a été retransféré à l'AMU. Donc l'AMU, c'est, bien entendu, nous l'a fait parvenir. Il fallait tout de suite, en 2016, demander une autorisation pour ce qu'on appelle le quitus Apogée, qui permet, c'est une application d'Apogée qui permet de repousser les réinscriptions si les personnes ne sont pas en règle avec leur prêt à la bibliothèque. Moi, je pensais que l'affaire allait être réglée. Effectivement, on s'est réunis, le service commun de la documentation, la DSI, les services concernés, tout ça. Et puis, j'ai fait la déclaration sur le site de la CNIL. Et pour moi, l'affaire était réglée. Je l'ai faite le 18 juillet 2016. Donc, pour moi, l'affaire était réglée. Et puis, il faut que je vous précise aussi que je l'ai fait parce qu'en juin 2016, à la réunion du SUPSIL, la représentante de la CNIL nous a dit oui, faites chacun une demande d'autorisation et vous l'aurez d'ici le mois de septembre 2016. Nous sommes donc le 25 juin 2018 et je n'ai toujours pas eu cette autorisation. Normalement, ils ont 2 mois pour vous répondre. Mais comme ils n'ont cessé de nous dire qu'ils nous répondraient, on ne peut pas tenir compte de ce délai. Donc ça tient aussi au fait qu'ils sont en manque de personnel. Pour vous donner un exemple, l'autorité britannique de contrôle des données à caractère personnel est passée à la date du 25 mai de 200 à 600 personnes. Alors vous allez me dire, oui, mais ils vont quitter l'Union européenne, donc ça n'a aucun intérêt. Non, parce que bien qu'ils quittent l'Union européenne, ils sont toujours soumis à la Convention européenne des droits de l'homme, et celle-ci prévoit également la protection des données à caractère personnel. Donc les Anglais ont mis le paquet au point de vue financier et humain, pour pouvoir répondre utilement et en délai raisonnable, ce que nous n'avons pas fait. Nous, c'est toujours le même nombre de personnes. Et j'ai eu cet échange surréaliste en décembre 2017, où nous avons envoyé régulièrement des mails pour solliciter, pour avoir une trace, bien entendu, de ce que l'on faisait. Et en décembre, j'ai interrogé une personne qui était présente lors d'une réunion avec notre réseau, et je lui ai dit, mais je vous envoyais un mail le 18 septembre, nous sommes le 4 décembre, quand est-ce que vous comptez me répondre ? Elle m'a dit, mais votre mail est en cours de traitement, il est archivé. Chez moi, archivé, c'est pas en cours de traitement, c'est foutu dans une corbeille et je n'aurai jamais de réponse. Donc si vous voulez, il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a une absence parfois de suivi des choses. Donc il y a effectivement des causes internes aux établissements. Ça, on peut encore y travailler, mais ça va être compliqué, ça va être long. Et puis il y a les causes sur lesquelles qu'on ne maîtrise pas, donc les délais de réponse de la CNIL, leur théorie tout à fait fluctuante. Comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a à peu près 3 semaines, au détour d'une délibération de la CNIL, est arrivé soudainement un concept sorti des entrailles de je ne sais quoi, disant dorénavant les chaînes contractuelles. Alors, pour un juriste, ça veut dire le début des catastrophes. Parce que jusqu'à présent, les chaînes, la responsabilité, elle allait d'en haut jusqu'en bas. Si vous voulez, elle allait du donneur d'ordre jusqu'au sous-traitant. Mais quand vous utilisez le concept de chaîne contractuelle seulement, ça veut dire que c'est aussi dans l'autre sens. Ça part du sous-traitant et ça remonte à nous. Donc tout ça, c'est compliqué. On n'a pas de jurisprudence. Alors déjà, il faut mobiliser le personnel. C'est pas simple. Il faut faire avec la CNIL et ses états d'âme. Là encore, c'est compliqué. Il faut faire face à des concepts qui sortent d'on ne sait où, mais sur lesquels on n'a ni jurisprudence ni doctrine. Et il faut, comme dirait la CNIL sur certains sujets, faites au mieux. Donc on essaye de faire au mieux, mais ça, c'est compliqué. Et on n'est pas sûr, même en essayant de se mettre dans les règles, qu'on le fasse correctement. Faute, à mon avis, mais ça, j'assume, de soutien de l'autorité de contrôle. Et c'est pour ça que je vous dis que je crains beaucoup la première institution publique qui va tomber sous leur fourche caudine. Parce que moi, j'ai un de mes collègues a subi un contrôle pendant une année. C'est long, une année. Hein. Quand vous êtes obligé tous les jours de leur donner des renseignements sur des trucs dont vous ignorez jusqu'à l'existence, c'est compliqué. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais les freins, ils sont là. On a des freins multiples et variés, c'est pas simple, mais effectivement, peut-être qu'il faut faire au mieux.
Alors, on va parler de COA maintenant, et c'est Anne-Claire qui va s'y coller sur les points qui posent problème actuellement, techniquement parlant.
Alors, j'espère que rentrer dans le concret, ça va vous faire du bien au moral. Je ne promets pas d'être exhaustive, complète et parfaitement toujours juste sur ce que je vais dire. J'ai essayé de défricher au maximum le sujet, mais vous savez comme moi que COA, c'est vaste, et je viens de rentrer dedans. Donc ce que j'ai pu repérer, en fait, le principal problème dans COA, c'est pas très révolutionnaire, c'est les données qu'on conserve trop longtemps. Donc il y a un certain nombre de tables qui sont concernées, la fameuse table Dilated Borrowers, qui m'a fait d'abord sourire, après qui m'a rendu perplexe, et après je me suis demandé ce qu'elle faisait là, mais elle est toujours là. Donc vous supprimez un usager, mais il est toujours là, voilà, c'est un concept. Après, il y a toutes les tables en hold, les hold issues, les hold reserves, qui vous permettent de savoir qu'un usager supprimé a fait un prêt il y a fort longtemps sur tel document, ou a réservé tel document il y a fort longtemps. Il y a aussi la fameuse, alors celle-là, elle pose plus de problèmes, la fameuse table statistics, qui conserve énormément de choses, mais qu'on use abondamment pour nos statistiques, comme son nom l'indique. On va avoir aussi des données qui sont conservées sans doute trop longtemps dans les logs. Donc il y a la table Action Logs qui conserve toutes les actions faites dans COA. Il y a aussi des logs Apache, par exemple. Enfin, on peut, je pense, aller chercher assez loin. Là, j'ai pas tiré le fil tellement plus loin que ça. Dans mes butinages, j'ai repéré des éléments sur des informations qu'on ne donnerait pas sur les cookies utilisés par l'OPAC. Et d'autres éléments encore un peu plus techniques sur les backups de bases de données faits automatiquement par COA qui ne seraient pas cryptés et donc accessibles, non pas librement, mais si quelqu'un les récupère, il peut accéder aux données sans souci. Voilà pour les points très concrets. Ce qui nous concerne vraiment directement, c'est toutes ces tables qui conservent trop de données, si je puis dire.
Et du coup, la communauté, qu'est-ce qu'elle fait ?
Alors la communauté fait déjà des choses et avait anticipé, ce qu'il faut noter. C'est les développeurs qui sont surtout emparés du sujet. En fait, il y a deux points d'entrée si on veut voir ce que fait la communauté. Il y a une page sur le wiki COA, donc j'ai fait une petite webographie là dans ma carte heuristique, vous pourrez voir ça. Il y a toute une page du wiki communautaire qui détaille les points qui posent problème. Sauf que cette page n'est pas encore entièrement complète, donc il faudrait que nous participions pour la compléter. Et il y a déjà un certain nombre de bugs qui ont été créés dans le Bugzilla pour traiter tous les problèmes listés dans cette fameuse page du wiki. À nouveau, là, dans ma petite webographie, je vous le note, le bug, pour ceux qui veulent noter et aller voir tout de suite, c'est le 18081 qui est la porte d'entrée vers tous les autres bugs. Ce qui me semble important, c'est que c'est super, les développeurs ont pris les choses en main sans rien nous demander et de manière très efficace, mais c'est nous les utilisateurs de COA, donc il faut qu'on se manifeste pour compléter des choses qu'ils auraient oubliées, pour tester les bugs quand ils ont été développés. Voilà, il faut qu'on s'empare de la chose.
Et en attendant, parce que du coup, le temps que le développement soit mis à disposition.
En attendant, je vais faire une réponse en deux temps. Il y a ce qu'on peut faire sans, avec ce qui est déjà dans Koa, et puis m'étendre un petit peu sur ce qu'on va essayer de faire à Rennes. Alors, ce qu'on peut faire dans Koa, parce que j'en suis à mon troisième SIGB, donc j'ai pu un peu voir ce qui se faisait. Koa est pas mal en matière de protection de vie privée et offre plus de garanties que les autres systèmes sur lesquels j'ai pu travailler. La première des choses à faire, c'est tout bête, mais c'est faire tourner le cron Cleanup Database, qui nettoie un certain nombre de choses, notamment la table Action Logs, par exemple, pour ne pas la nommer. C'est un premier point très simple et qui est un début. Pardon ? Le cron Cleanup Database, nettoyage de la base de données. Il est documenté, il explique tout ce qu'il fait. Donc il ne réglera pas tous les problèmes, mais il commence par faire un petit peu de nettoyage. On peut utiliser les fonctionnalités de vie privée proposées par Koa. C'est le premier SIGB dans lequel je vois ça. Donc c'est ce qui permet à un usager de choisir s'il veut conserver son historique de prêt ou pas, ou s'il veut utiliser la règle par défaut. Et peut-être qu'on pourrait proposer que la règle par défaut, ce ne soit de ne rien conserver. Ça peut être une bonne manière de protéger les données. Oui, il le fait sur l'OPAC. Il y a un onglet sur l'OPAC qui s'appelle Ma vie privée, d'ailleurs, et qui permet de le faire. Et le dernier point, alors là, qui demande un peu plus d'huile de coude, c'est d'aller nettoyer régulièrement les fameuses tables deleted quelque chose, hold quelque chose, et même la fameuse table statistics, pour ne conserver vraiment que le minimum des données. Ça, c'est ce qu'on peut faire en l'état. Alors, je vais m'abriter derrière le juriste. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur... Alors, la question, c'était, est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des durées de conservation? Moi, quand j'ai commencé à travailler en informatique documentaire, il n'y avait qu'une seule règle d'or, c'était la norme simplifiée numéro 9. Et elle dit bien qu'on conserve les données. Alors, c'est des données de prêt, 4 mois après la restitution du document, et l'usager, un an après son dernier prêt, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus les choses en tête, mais c'était cadré dans la norme simplifiée numéro 9. Que devient la norme simplifiée numéro 9? Eh bien, personne ne le sait. Mais c'est un vrai problème, parce que c'était la seule qui nous donnait des éléments concrets sur combien de temps on a le droit de conserver. Donc, en attendant, alors j'ai trouvé sur le site de la CNIL cette petite mention, qui n'était pas sur l'entrée de la norme simplifiée numéro 9, mais d'une autre norme simplifiée, qui dit « Suite à l'entrée en application du RGPD, les normes simplifiées adoptées par la CNIL n'ont plus de valeur juridique à compter du 25 mai 2018. » Dans l'attente de production de référentiels RGPD, la CNIL a décidé de les maintenir accessibles afin de permettre aux responsables de traitement d'orienter leurs premières actions de mise en conformité. Donc, bêtement, dans ma petite tête de responsable informatique documentaire, je me suis dit, on va déjà essayer de suivre les règles de la norme simplifiée numéro 9. Ça fait une base.
Où ça ? En fait, peut-être qu'on... Ou je sais pas, non, on y va, on a commencé, on va continuer.
Je ne pensais pas susciter autant de passion.
Sur un sujet pareil, oui.
Elle était là-bas, Sonia.
Est-ce que quelque chose est renseigné dans le RGPD sur quand on anonymise les données? Donc informatiquement, c'est-à-dire qu'on va retirer, on va garder les informations de prêt, de consultation, etc., mais ça ne sera plus lié à l'identité de la personne qui, par exemple, d'ailleurs, peut avoir été effacée. Donc est-ce qu'on a le droit de garder ces statistiques qui peuvent être, pour que ce soit intéressant, par exemple, liées à la discipline des livres ou en BU, en tout cas, au niveau de la personne quand elle a emprunté le bouquin, etc.
En fait, c'est... Alors, je ne vais pas répondre sur le contenu du RGPD, peut-être... Tu veux répondre avant, Fabrice ?
Non, vas-y.
Je vais répondre sur ce qu'on veut essayer de faire à Rennes. En fait, la démarche... J'ai parlé d'injonction paradoxale tout à l'heure. Je suis vraiment... j'ai cette idée dans la tête. Essayer de faire au mieux, comme disait Fabrice, parce qu'on a effectivement des statistiques à rendre. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de conserver les données. Alors, on ne peut même pas les anonymiser, puisque une des statistiques qu'on a à rendre, c'est le nombre de lecteurs actifs, donc ayant au moins un prêt. Si vous voulez savoir si un lecteur a fait au moins un prêt, il faut que vous puissiez l'identifier de manière unique, sinon ça ne va pas marcher. Donc on va être obligé de pseudonymiser nos données. La pseudonymisation est beaucoup moins protectrice que l'anonymisation. Vous allez parler de pseudonymisation à un gars qui travaille en cryptographie informatique, il va vous rigoler au nez en vous disant « mais c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien ». N'empêche que c'est le pas qui va nous permettre de faire au mieux, de prouver notre bonne foi tout en répondant à la demande de notre autre tutelle qui veut ce genre de statistiques. Voilà, c'est pour la réponse concrète à la question. Donc ce qu'on va essayer de faire, nous, à Renin, la première des choses à faire, de toute façon, c'est lister et documenter tous ces traitements. C'est un travail, alors là, que pour le coup, moi, je trouve très intéressant, quoique un peu fastidieux, parce que ça nous permet de jeter un autre regard sur toute notre activité, et un autre regard, d'avoir un regard juridique, un regard différent, un regard qu'on n'a pas d'habitude. Le deuxième point, alors recueillir le consentement de nos usagers. En fait, en université, on a deux types de populations très différentes. On a notre public captif, les étudiants et les personnels. En fait, ils sont de facto inscrits à la bibliothèque quand ils s'inscrivent comme étudiants ou quand ils sont recrutés comme personnels. Donc ça va être au moment de leur recrutement ou au moment de leur inscription qu'on va les informer, qu'on va recueillir leur consentement, mais en même temps, ils n'auront pas tellement de choix, qu'on conserve leurs données pour qu'ils puissent être utilisateurs de la bibliothèque. Et on a, d'autre part, la population des lecteurs extérieurs, qui, eux, viennent de leur plein gré à la BU, parce qu'ils ont choisi. Et eux, on aura un joli petit formulaire, papier ou électronique, je ne sais pas encore, mais qu'on leur fera remplir et qu'on conservera soigneusement. Je ne sais pas si juridiquement, c'est très dans les clous, si... poil de Fabrice se hérisse.
Non, pas du tout, parce qu'en fait, le règlement européen, il ne fixe pas de durée de conservation précise. Il précise juste que les données doivent être conservées le temps nécessaire au traitement. Donc, par définition, ça veut dire que c'est jamais le même temps. Après, la CNIL, effectivement, a comme cheval de bataille l'anonymisation et la pseudonymisation, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé, parce qu'il faut pouvoir le faire. Effectivement, pour les statistiques, c'est compliqué. Je dirais que pour ce qui est de Paris 8, on fait au mieux. On fait comme on peut, pour s'efforcer de respecter. Le problème, c'est que, je ne l'ai pas dit clairement, mais je vais vous le dire quand même, de l'aveu même de la CNIL, la conciliation entre le RGPD et la loi nationale, même celle qui vient d'être votée, le résultat est illisible. Donc, illisible, compliqué, entraînant des conséquences juridiques qu'à mon avis, on ne soupçonne pas encore. Alors, c'est très difficile de vous répondre. Moi, par exemple, dans mon réseau professionnel, nous sommes associés avec les archivistes de l'enseignement supérieur à la recherche et nous bâtissons un groupe de travail sur le système d'archivage électronique. Et, parce que déjà, il faut s'entendre. Par exemple, nous avons utilisé tout à l'heure le terme de sous-traitance. Le terme de sous-traitance vis-à-vis des marchés publics et vis-à-vis de la réglementation informatique et liberté ne revêt pas la même signification. Donc déjà, il y a un problème de signification selon les termes que l'on utilise et selon quel secteur métier les utilise. Tout ça, ça n'est pas réglé, ça va se régler sans doute au fur et à mesure, mais donc il faut y aller lentement, calmement, mais sûrement, mais sans certitude en l'état actuel, parce que la formule sur laquelle les données sont conservées le temps du traitement, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on les archive ou quand? Là encore, c'est pareil, il y a une difficulté entre l'archivage et la destruction, puisqu'on est censé ne plus conserver les données, ça veut dire les détruire après le traitement. Mais c'est incompatible avec l'archivage intermédiaire, l'archivage historique, etc. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc on forme des groupes de travail, on essaie de formuler des recommandations, des préconisations, mais sans certitude. Et là, on touche au fait que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas vraiment aidé dans le cas de... Parce que faites au mieux, c'est bien, mais faites au mieux, ça ne veut pas dire que ce soit sécurisé pour les établissements. Or, maintenant, on risque cher si on se trompe.
La question bête, mais est-ce que les statistiques peuvent être déclarées comme un traitement? Du coup, on peut les conserver. Si on a des stats à faire pendant 5 ans, on peut conserver les données pendant 5 ans.
C'est ce que je fais ici. Moi, je les déclare comme traitement. Il y a un service dédié des statistiques. Donc, je me saisis systématiquement avec mon petit formulaire et moi, je le mets en traitement, oui. Mais ça ne garantit pas que ce soit... Les pratiques sont différentes. Moi, je le mets en traitement.
Je ne crois pas que ce soit ce qui se fait à Renan. L'option qu'on a vraiment prise, c'est faire du ménage dans nos données. Du coup, avec l'aide de notre prestataire, on va essayer de copier strictement et seulement les données qui sont nécessaires à nos statistiques en les pseudonymisant dans des tables parallèles, et faire le ménage dans les tables courantes de Koa, avec des crons qui vont aller supprimer les lignes qui vont bien, en se basant, comme le disait Sylvain tout à l'heure, on n'a pas d'autres informations que celle de la norme simplifiée numéro 9. Donc pour les délais, on va se baser sur ce qui est dans la norme simplifiée numéro 9. Une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on aura fait au mieux de ce qu'on peut faire, mais on n'y est pas encore. Sonia, il y a une question là.
Il y a une question.
C'est pas une question, c'est un élément que j'ai remonté d'une formation que j'ai faite sur un MOOC de l'INRIA sur la protection des données personnelles. Et donc j'ai été étonnée d'apprendre en fait que certes le règlement européen sera, enfin les, par exemple des logiciels américains, des plateformes américaines seront tenues de respecter les données des membres de l'Union européenne. Par contre, la CNIL, les lois françaises, sont plus strictes que certaines lois européennes qui s'appliquent aujourd'hui. En particulier, ce que l'INRI a expliqué, c'est que, par exemple, vous avez EDF qui conserve la température de votre appartement et votre adresse IP. Donc, selon la CNIL, EDF ne devait pas garder l'adresse IP, parce que de l'adresse IP, on peut remonter au nom de la personne, donc l'identité de la personne. Selon la nouvelle norme européenne, en fait, du moment que EDF lui-même n'est pas capable de remonter de l'adresse IP au nom, il peut maintenir ensemble ces deux données. Ce qui fait que, en réalité, c'est une moindre contrainte qui s'exerce. Et on peut imaginer que si ces fichiers sont amenés à s'échanger et donc à se croiser, à un moment donné, on est effectivement une identification qui soit rendue possible, alors qu'elle n'était pas dans la réglementation française. Voilà.
Oui, alors ça, c'est encore un sujet extrêmement intéressant et aussi complexe. Il ne vous aura pas échappé que, pour ce qui est de Facebook, le siège social était en Irlande. Et que Zuckerberg, quand même, voyant un peu ce qui se passait, a décidé de transférer le siège pour les États-Unis ailleurs, et de façon évidente à ne faire appliquer le règlement européen que pour les citoyens de l'Union. Étant donné que le règlement européen est un peu, on reproche beaucoup aux Américains de faire appliquer leurs lois à l'étranger, mais avec le RGPD, nous ne faisons pas mieux, puisque les gens qui contactent avec nous dorénavant sont co-responsables sur cette base. Alors, écoutez, ce que vous soulevez, oui, est intéressant, mais ça veut dire après qu'il faut avoir la volonté, je dirais, politique de la CNIL d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Oui, les textes français sont en général plus stricts que les autres textes dans les pays européens. J'attire votre attention toutefois que depuis le 25 mai, moi, par exemple, jusqu'à cette date, je ne pouvais être, entre guillemets, saisi que par la Commission nationale informatique et liberté française. Dorénavant, je peux être saisi demain sur la Commission nationale informatique et liberté, enfin l'équivalent de la Lituanie ou de n'importe laquelle de l'un des 28 États membres. Donc après, c'est une question de volonté. Pour vous faire livrer encore une anecdote, lors d'un colloque à Descartes, un avocat a publiquement apostrophé la représentante de la CNIL en lui disant « Arrêtez de nous emmerder, nous, les établissements universitaires, et allez donc franchir le périphérique, ça vous fera du bien, et attaquez-vous aux multinationales. » Donc ce que vous soulevez, oui, c'est un point important, mais ça, je ne maîtrise pas. Mais effectivement, nous, on s'efforce au mieux dans nos établissements. Après, c'est le rôle de l'autorité de contrôle d'assumer ses responsabilités. Mais ils n'ont pas les moyens humains et matériels. Il faut être clair, par exemple, pour les universités, pour l'ensemble du secteur éducatif français, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université, il y a une personne qui s'occupe des dossiers. Que l'on transmet. Je ne vous parle pas des sanctions. Je vous parle des personnes qui instruisent les dossiers. Donc il y en a une. Comment voulez-vous qu'une personne seule puisse traiter l'intégralité, ne serait-ce que les dossiers des universités françaises? Ce n'est pas possible. Alors de la maternelle jusqu'à... Ce n'est pas possible non plus. Donc il y a un discours. Il y a un discours affiché. Et c'est là-dessus que nous comptons tous pour qu'ils ne viennent pas chez nous.
mais matériellement, ils n'ont pas la potentialité. Donc effectivement, il faut pas être celui sur lequel ça va tomber. Mais bon, ça, évidemment, c'est plus facile de s'en prendre à une université d'Île-de-France plutôt que d'aller s'intéresser à autre chose. Mais bon, malheureusement, je maîtrise pas. Et j'ajouterais qu'il y a aussi un autre frein, c'est que j'ai constaté que beaucoup d'administrations considèrent que, du fait qu'elles soient des administrations, elles n'auront jamais à payer la moindre amende administrative. Je pense que c'est une grossière erreur, parce que le risque, il existe. Et ce n'est pas qu'un risque, puisque c'est inscrit dans un texte qui est censé être supérieur même à la Constitution, si on applique la hiérarchie des normes. Donc le fait que ça existe et que ça soit mentionné dans un texte, ça veut dire que ça va être appliqué, tôt ou tard. Alors évidemment, il vaudra mieux tard que tôt. Mais, et d'ailleurs, pour être encore plus précis, nous avons reçu alors là un écrit de la CNIL indiquant que tout ce qui était fait avant le 25 mai 2018 avait 2 ans pour être régularisé. Par contre, c'est ce qui vient après le 25 mai qui doit être dans les clous tout de suite. Mais le passif que l'on a, nous avons jusqu'au 25 mai 2020 pour nous mettre dans les clous et faire au mieux. Mais vous soulevez une question importante, mais là, ça ne relève pas de nous, ça relève de l'autorité de contrôle, mais elle n'a pas les moyens humains et financiers d'accomplir ses missions, clairement. Mais c'est un autre sujet qui nous dépasse.
Tu veux que je parle de... Alors, avant de reprendre une question, on va juste parler un petit peu de l'open data, parce que c'était un petit point qu'on avait prévu d'aborder. On a déjà commencé un petit peu à l'aborder, parce qu'on a parlé tout à l'heure de statistiques, mais là, la loi, maintenant, elle va plus loin, elle nous donne une injonction à conserver les données mêmes. Du coup, Fabrice va nous parler un peu de ce point.
Alors là encore, on est face à un paradoxe. Vous avez 2 textes. Vous avez le règlement général sur la protection des données pour la protection des données à caractère personnel, et la loi dite Le Maire sur l'ouverture à l'open data. Bon, c'est peu de dire que les 2 textes sont difficilement conciliables, ils sont même contradictoires. Parce que vous avez d'un côté un texte qui vous impose de scrupuleusement respecter les données à caractère personnel et de les entourer d'une sécurité, d'une confidentialité à toute épreuve, en renforçant les droits des personnes. Et de l'autre, vous avez cette ouverture. Alors, l'ouverture suppose que vous donnez tout ce qui est possible de donner. D'ailleurs, c'est un peu incompatible avec la protection des données à caractère personnel. Sachant que, naturellement, comme le législateur français ne va jamais au bout de sa logique, il y a des sanctions pour la méconnaissance du règlement européen sur la protection des données. Il n'y en a pas sur la méconnaissance de l'open data, à part le fait que vous allez être obligé de donner tel ou tel fichier. Mais ça n'a pas d'incidence financière. Alors d'un côté, vous avez des sanctions fortes, de l'autre, vous n'avez rien. Donc la tentation est grande de se dire, après tout, entre deux mots, je vais choisir le moindre, je vais bloquer l'open data et puis je vais surveiller vite mes données à caractère personnel. Alors, on peut dire que forcément, il va y avoir une conciliation, mais que ça nécessite... Alors la conciliation entre les deux, ça veut dire d'abord qu'on peut ouvrir l'open data que si un texte le prévoit, que si, pour répondre à la question tout à l'heure, les données sont complètement anonymisées, et si, comme tu le disais tout à l'heure, au préalable, les personnes ont donné leur consentement à ce que leurs données présentes soient transférées.
Si je peux ajouter juste une petite précision à ce que tu dis, Fabrice, j'ai participé il y a quelque temps à une table ronde sur ce même sujet du RGPD, et on avait avec nous un informaticien, enfin un chercheur en sécurité informatique, qui nous disait même des données anonymisées peuvent finir par ne plus être anonymes. Plus il y a de données mises à disposition, plus on peut les croiser, et plus l'anonymat est fragile. Donc il y a vraiment une contradiction essentielle entre l'open data et le RGPD.
Voilà, il y a une contradiction, et comme l'a dit un autre avocat lors d'un autre colloque, tout cela n'a pu sortir que d'un cerveau malade. L'expression n'est pas de moi, je ne fais que répéter. Mais c'est vrai que les contradictions... Alors en plus c'est difficile, parce que pour l'expliquer ça, c'est compliqué... Déjà que c'est difficile à comprendre. Et il y a trop de contradictions entre les textes. Il y a trop de contradictions. Or, le juriste que je suis vous dira que s'il y a trop de contradictions entre les textes, c'est source de contentieux. Parce que si on n'a pas une position, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas... Bon, alors, j'ai pris aussi ce matin... si la loi était si claire que ça, il suffirait de mettre un texte dans un ordinateur et la décision sortirait, il n'y aurait pas besoin de juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Donc c'est bien que si on a besoin de l'humain pour donner un sens à tout ça, c'est bien qu'il y a des contradictions. Donc là, les contradictions, elles sont claires. Et en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous dire dans quel sens il faut aller. Une fois de plus, il faut utiliser la formule il faut faire au mieux. Mais ça n'est pas satisfaisant. Alors oui, il y a des avancées, mais la conjonction de tous ces textes devrait quand même faire l'objet d'un toilettage. Et en particulier, pour ce qui est la loi informatique et liberté, là encore, en théorie, lorsque vous avez une loi qui modifie, en théorie et en pratique, lorsque vous avez une loi qui en modifie une autre, vous avez ce qu'on appelle la version consolidée. C'est-à-dire que si vous tapez sur le journal officiel, vous tapez par exemple, pour un sujet qui fait polémique aussi dans nos universités, la loi Toubon de 94, vous allez avoir la version qui vous apparaît, la version consolidée au 25 juin 2018, c'est-à-dire celle qui est applicable aujourd'hui. Mais dans la loi informatique et liberté, pour différentes raisons, alors on complète le règlement tout en transposant d'autres directives, mais dans la même loi. Et au final, c'est tellement peu clair que le législateur lui-même comprend qu'il faut prendre une ordonnance ultérieurement pour simplifier le tout, puis un décret. Alors, autrement, pour vous dire que la conjonction entre tous ces textes, pour le moment, on n'en sait rien. Et j'ai même, en tapotant sur le journal officiel pour voir un petit peu la fameuse loi du 20 janvier, je vois apparaître en haut la version consolidée au 23 juin 2023, ou quelque chose comme ça. Je me dis, s'il faut attendre le 23 juin 2023 pour avoir une version consolidée, donc savoir ce qu'on fait, ça va quand même être compliqué.
Surtout qu'on
n'a que jusqu'à 2020. Donc tout ça, ça ne peut être sorti que d'un cerveau malade. Et on n'est pas en mesure de vous donner avec certitude des réponses précises. Parce que finalement, il faut reconnaître qu'on n'en sait rien.
Voilà. Il y avait une question sur ce sujet. À Orléans, vous savez qu'on est légitimiste, donc on a vu les textes sur le RGPD. On a essayé, comme l'indique la CNIL, de faire au mieux. Et on est parti sur effectivement cette norme simplifiée, que la CNIL aujourd'hui, pour ce que vous en dites, estime elle-même caduque. Comme base de départ, visiblement comme vous avez fait à Rennes. On est parti de ces 4 mois après le dernier emprunt et 1 an pour les données usagées après le dernier emprunt. Mais effectivement, la CNIL, sa recommandation pour l'heure, même si elle est caduque, est de tout détruire.
Oui.
On a eu la même tentation que vous, de se dire on va s'en sortir par l'anonymisation des données.
Alors, je ne parle pas d'anonymisation, je parle de pseudonymisation.
Alors, voilà. La pseudonymisation, visiblement, elle n'offre pas une sécurité suffisante. La question, peut-être pour nous, techniquement, c'est est-ce que COA permet d'anonymiser les données relatives aux emprunteurs et aux emprunts? Si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas peut-être une première étape, on va dire, qui consiste à faire mieux? Voilà. Mais est-ce que la solution, finalement, ne serait pas, comme l'a proposé Sonia, de travailler sur l'utilité même de notre travail de traitement de données. Et pourquoi pas, effectivement, en affirmant la nécessité pour une bibliothèque, comme pour Google, comme pour les autres GAFA, de disposer de données qui font notre richesse et nous permettent d'affiner notre politique documentaire. Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut travailler et finalement aller chercher des durées de conservation des données les plus larges possibles, quitte à ce qu'on ait finalement à gérer ensuite le non-consentement de l'usager inscrit aux conditions qu'on lui propose. Voilà, en quelque sorte, faire du cas par cas, mais d'emblée, c'est-à-dire considérer aussi, voilà, ces données-là, elles sont nos richesses, on a intérêt à les anonymiser le plus tard possible, pseudonymiser sans doute pas, et à faire entendre notre petite voix. Voilà, est-ce que c'est pas...
Alors, je peux répondre sur la première partie de la question. Corinne, tu n'hésiteras pas à me démentir si je dis des bêtises. À ma connaissance, aujourd'hui, COA ne permet pas d'anonymiser simplement en 3 clics les données nécessaires à nos statistiques. C'est un développement qu'on va demander, nous. Sur la conservation des données... alors, en fait, tout dépend de ce qu'on veut conserver. Si on veut conserver des statistiques, très bien... C'est des chiffres, on conserve ce qu'on veut. Il n'y a plus de données à caractère personnel dedans. Si c'est conserver les données pseudonymisées qui nous ont servi à créer ces statistiques, à les consolider. Moi, je serais beaucoup plus réservée. C'est un avis tout à fait personnel, mais comme tu le disais, des données pseudonymisées, ce n'est pas des données très protégées. C'est très facile de briser le pseudonymat, si je puis dire comme ça. Et pour quel usage ? Conserver de la donnée pour conserver de la donnée, encore une fois, c'est un point de vue très, très personnel. J'ai tendance à considérer que c'est un peu une marotte de bibliothécaire, mais je suis bibliothécaire, donc je peux le dire. Voilà, pour quel usage ? Les statistiques, on en a l'usage, ça c'est clair. Comme tu le dis, ça sert à affiner notre politique documentaire. Mais les données nécessaires à la consolidation de ces statistiques, une fois que les stats sont faites, je ne vois pas trop l'intérêt. J'en ai parlé rapidement dans.
Moi aussi.
Très rapidement. Qui relève des DSI plus que des BU? RGPD. Alors, un point sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, enfin, c'est la réflexion qu'on a, c'est on va pas supprimer des données avant d'être sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire les statistiques qui nous sont demandées. Donc le premier travail, en même temps que lister les traitements que l'on réalise, c'est aussi de lister toutes les statistiques dont on a besoin. Alors après, il y a une... C'est injonction paradoxale.
Oui, moi aussi, j'ai peut-être pas assez insisté, mais pour ce qui est de Paris 8, nous avons diligenté un audit de sécurité afin de savoir, donc par un cabinet extérieur, afin de voir quelles étaient les améliorations possibles. Mais comme vous l'avez souligné, effectivement, notre budget est ce qu'il est, vu les circonstances également. Donc on est tenu par des impératifs budgétaires. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire en fonction des moyens financiers et en fonction des événements. Donc effectivement, ça c'est un impératif que je ne cesse de répéter. Mais après, ça relève de la décision politique de l'établissement. Moi, je fais des propositions et ensuite, c'est à la gouvernance de l'université de décider. Mais c'est naturellement présent dans mon esprit.
Oui, j'ai une question. Alors, première question, c'est que dans mon établissement, on fait beaucoup d'échanges de publications. C'est une question que j'ai posée aussi sur le forum de la DBU. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la réponse qu'on a pu me donner. Et j'ai un des correspondants d'échange à Budapest, c'est dans le monde entier, ces échanges, qui nous a fait signer un formulaire par rapport à l'utilisation des adresses courrier et courriel. Donc ça, c'est une première, enfin c'est une utilisation à laquelle je n'avais pas pensé bêtement pour les bibliothèques, mais du coup, il y a un impact direct sur ma bibliothèque, et voilà, ça c'était ma première question. La deuxième, moi c'est un cas un peu particulier, puisque je travaille à l'étranger, en établissement d'enseignement supérieur français, l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, pour ne pas le nommer, et donc je me pose la question, sachant que je n'ai pas de correspondant informatique et liberté, ou DPD encore mieux, dans l'établissement, alors c'est peut-être le responsable informatique, mais qui n'est pas là, enfin bref, du coup, je n'ai pas de réponse et je ne sais pas si les données personnelles des usagers concernent uniquement les Européens ou également les autres, qui sont majoritaires et principalement égyptiens. Je profite.
Alors oui, là encore, c'est un sujet extrêmement intéressant et je dirais...
sujet à contentieux possible. Oui. Alors, Budapest, évidemment, c'est l'Union européenne, mais malgré tout, la pratique. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux conventions, au sens large, à la contractualisation, c'est que nous recevons également de nos partenaires des avenants aux conventions avec, par exemple, des clauses de confidentialité. Donc, je ne saurais trop vous recommander, y compris pour les bibliothèques, enfin pour les services communs de documentation, pour utiliser le terme exact. Vous avez les modèles sur le site de la CNIL. Hein. Des clauses de confidentialité qui permettent d'assurer le transfert des données à caractère personnel entre établissements ou entre entités de façon à peu près juridiquement correcte. Sous la réserve que la CNIL, depuis la loi Lemaire de 2016, balance à tour de bras des sanctions, y compris lorsque des donneurs d'ordre ont conclu des clauses de confidentialité avec leurs sous-traitants au motif que le donneur d'ordre doit avoir une vision totale et systématique sur son sous-traitant. Donc, il y a ce type de clause, oui. Et pour les pays, on va dire, inadéquats, et je suis sûr que l'Égypte doit faire partie du lot, là, effectivement, pour ce qui est des ressortissants qui ne sont pas égyptiens, il conviendrait de prévoir des clauses contractuelles type, dont les modèles en anglais et en français sont sur le site de la CNIL aussi. Mais alors, là, c'est toujours pareil. Le RGPD fait référence explicitement à ces clauses dans l'article 83, mais la CNIL est en train de rédiger une nouvelle clause, puisque la version que nous avons au mieux date de 2004, au pire de 2001. Donc ce sont quand même des clauses anciennes et qui ne prennent peut-être pas tout à fait en compte la situation actuelle. Mais toujours se poser la question dans ce cas-là, de travailler transversalement et pluridisciplinairement, demander à votre service juridique, au minimum, parce qu'en théorie, le DSI ne peut pas être le délégué à la protection des données parce qu'il y a un conflit d'intérêts, au sens de la CNIL, toujours. Et parce que le DSI est censé mettre en œuvre des traitements, alors que le DPD est censé les piloter. Donc il y a une incompatibilité entre les deux. Donc en théorie, ça ne peut pas être pas plus que, par exemple, le DGS ne peut être le délégué à la protection des données, car là, l'incompatibilité est évidente. Donc toujours s'efforcer de contractualiser au sens large avec des clauses contractuelles type, des clauses de confidentialité, et moi dans le doute, parce que par exemple dans l'université Paris 8, nous avons beaucoup d'accords cadres avec des universités de pays dits inadéquates. J'insiste à nouveau sur le fait que ce n'est pas moi qui décide quels sont ces pays, mais la CNIL et l'Union européenne. Et donc, pour éviter d'alourdir un peu tout, j'ai bidonné une clause qui indique que tout acte de sous-traitance entre les participants devra faire l'objet de clauses de confidentialité, que tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers inadéquat ou entre des pays inadéquats ou entre des entités devra faire l'objet de clauses contractuelles type développées dans une convention annexe. Et que dans tous les cas, tous les participants à la convention s'engagent à protéger la vie privée des personnes et à respecter leurs données à caractère personnel. Alors ça, c'est une clause que j'ai bidouillée moi-même. Mais pour vous donner un exemple récent, pour une convention d'un service, effectivement, le partenaire nous demandait de signer une clause de confidentialité, donc ça m'allait très bien, mais il manquait une clause sur la sous-traitance, et comme je ne savais pas si on allait ou non conclure avec ce partenaire à l'étranger, j'ai fait rajouter la clause en question, et le partenaire l'a acceptée. Donc ça, c'est un travail réciproque, OK pour sa clause de confidentialité, à condition qu'il accepte la mienne sur la sous-traitance et les clauses contractuelles type. Bon, sous réserve que la CNIL ne nous ponde pas une nouvelle doctrine d'ici peu. Mais pour reprendre l'expression que j'ai souvent utilisée, je fais au mieux. J'essaye de sécuriser juridiquement toutes les conventions au sens large en prenant en compte la protection des données à caractère personnel. Après, le fait qu'elles aient été contractualisées n'empêche pas leur éventuelle violation. Mais bon, on ne peut pas tout prévoir.
Pardon, mais en tout cas, pour les usagers, a priori, je dois faire uniquement accepter, enfin, faire appliquer le RGPD aux ressortissants européens ou...
Alors là encore, c'est compliqué parce que normalement, au sens du règlement européen, toute personne qui contracte avec une entité d'un État membre de l'Union européenne est co-responsable au sens du règlement européen. Donc, en théorie, il faut voir quel est le statut juridique et normalement, il faut contractualiser pour l'ensemble. Mais si vous transférez leurs données à caractère personnel ailleurs, il faut que les personnes soient informées et qu'elles aient donné leur consentement a priori maintenant, hein, et explicitement, pas en cochant quelque chose. Non, il faut que ce soit qu'elles aient la sensation de donner un consentement explicite et qu'elles sachent à quoi vont servir les données. C'est ça.